ressuscité. À toi la victoire.
Chers amis, bonjour. Daniel Zavagnaud au micro. Au nom de la communauté protestante de Blégny, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce culte dominical. J'ose espérer que vous allez bien en cette veille de déconfinement progressif. Et oui, demain, beaucoup d'entre nous reprendront le chemin du travail. Je vous souhaite donc à vous tous beaucoup de courage. Par la même occasion, je désire souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Je sais que ce n'est pas un dimanche de fête de mère comme les autres. Recevez malgré tout un peu de consolation en nous écoutant, malgré que nous sommes éloignés de nos enfants pour le moment. Je vous propose, avant d'aller plus loin, de prier un instant. Seigneur, nous te remercions ce matin de ce que nous pouvons encore écouter ta parole. Nous prions pour chacun de nos auditeurs, afin de leur donner ta paix et ta joie, malgré les moments difficiles que nous traversons actuellement. Accorde ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Que ta parole ce matin puisse nous parler et nous instruire, nous te le demandons en ton nom Jésus. Amen.
Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés.
Il est temps répondre à la paix de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher.
Conscience te condamne et Satan te réclame, mais Jésus te tend la main, oui, pour te relever, pour te pardonner, pour effacer ton péché. N'attends plus, lève-toi. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir. Il est temps de se lever, de s'approcher.
C'était Philippe de Courroux qui nous interprétait le chant « Il est temps ». Je désire lire avec vous le psaume 130. Chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin, oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je ne sais pas si vous êtes dans le même état que notre psalmiste ce matin. Cela se pourrait, car les jours que nous venons de vivre n'ont pas été faciles pour personne, et, comme vous le remarquez, ce n'est pas encore terminé. Votre morale est peut-être atteint, parce que la maladie vous a touché, voire vous avez des fêtes difficiles, et on peut le comprendre pendant cette période de confinement. Avez-vous perdu un proche, peut-être? Je peux imaginer que tout cela peut vous laisser dans la souffrance et l'angoisse. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être au fond du gouffre. Que faire en ce moment? S'enfoncer encore plus? Ou réagir en criant vers celui pouvant vous en sortir? Comme cet homme, faites monter vers Dieu votre prière. Il a les oreilles attentives pour entendre votre cri de désespoir. Réalisons que nous nous adressons au Dieu trois fois saint, qui aurait la possibilité de nous foudroyer parce que nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Mais Dieu est amour, et par le sang versé par son Fils, il nous purifie et nous justifie. Dieu est amour et pardon. Si nous nous approchons de lui, tout simplement, il se laisse trouver. Il écoute notre prière. Le psalmiste réalise qu'il n'est rien devant Dieu et qu'en fait, Dieu peut tout pour lui. Tout d'abord, il sent en lui le pardon de Dieu, coulé dans son être tout entier. Et cela restaure son âme. Il est un fait qu'en Dieu guérit notre âme, le vide qui est en nous se remplit de la présence de Dieu. Le psalmiste sent ses forces lui revenir, et l'espérance fait place aux ombres noires et funestes qui étaient en lui. Il sait que son Dieu l'a entendu. Il a la conviction que Dieu va le retirer de cette sombre vallée dans laquelle il se trouve. Une vie nouvelle le ranime. Et non seulement il se sent délivré de cette oppression, mais il encourage chacun d'entre nous à faire de même. Mettre notre confiance en Dieu. Chers amis, je n'ai rien d'autre à ajouter aux paroles de ce psaume. Sinon de vous encourager si vous êtes déprimé ou découragé à tourner vos regards vers Jésus, de lui faire part de votre souffrance. Et lui s'approchera de vous, vous consolera, vous délivrera. Je vous propose maintenant d'écouter Jacqueline nous interpréter le chant « J'ai confiance ». Merci Jacqueline pour ce merveilleux chant. Je vous invite maintenant à écouter le message qui nous sera délivré par Jean-Luc Cardon.
Bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien. Il y a 3 semaines, nous avons eu le choix de 2 chemins sortant de la ville de Jérusalem. Celui qui conduit à Emmaüs avec les 2 disciples que Jésus accompagne et la route qui descend vers Jéricho, dans le récit de la parabole dite du bon Samaritain. Il y a 15 jours, nous avons emprunté le chemin de Damas avec Saul, le persécuteur de l'Église devenu l'apôtre Paul. Si vous voulez, vous pouvez retrouver ces prédications sur notre site en date du 19 et 26 avril. J'aimerais, pour le partage de ce matin, vous emmener sur un autre chemin qui va faire sortir notre personnage de son pays. Je vous invite à accompagner Jonas dans le périple qui nous est rapporté dans le livre qui porte son nom. Je ne lirai qu'une partie de son récit, mais si vous le désirez, et pour vous remettre son histoire complète en tête, je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à relire le livre de Jonas. Il ne comprend que 48 versets, et cela ne vous prendra que 10 minutes maximum. Pour ma part, je vous propose de lire les 2 prières que Jonas adresse à l'Éternel. Jonas, chapitre 2, les 10 premiers versets. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots passaient sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Une 2e lecture un peu plus loin, chapitre 4, versets 2 et 3. Jonas implora l'Éternel et il dit: « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Prions. Seigneur, du sein de notre confinement, nous nous adressons à toi, pour avoir le courage nécessaire de ne pas laisser flancher notre foi en toi et nos convictions de toi. Donne-nous de nous approcher pour toucher ton cœur de Père. Enseigne-nous encore par ta parole qui est la vérité. Amen. Je vous rappelle ma question lors de nos précédentes rencontres. Quel chemin allons-nous prendre après le confinement dû à la pandémie ? Aujourd'hui, et je ne vous apprends rien, nous sommes toujours confinés. Tout comme notre ami Jonas, dans le ventre du poisson, qui ne lui reste qu'une chose à faire, prier. Vous allez me dire, ce n'est pas facile quand on ne sait pas où l'on va, quand on nous annonce le déconfinement, mais que l'épidémie reprendra de plus belle si on ne respecte pas les mesures qui nous sont dictées. Nous, nous avons des informations. Mais imaginez que vous êtes en voyage, dans un pays étranger, que l'hôtel où vous êtes est en quarantaine, que vous êtes confiné dans votre chambre, et de surcroît, les infos ne sont transmises que dans la langue du pays, que vous ne comprenez pas, évidemment. Pas de wifi, pas de réseau, pas de GSM, pas de téléphone, pas d'avion pour le retour, etc. Le confinement total. Comment reprendre vie après quelques semaines passées dans ces conditions? Que pensait Jonas dans le ventre du poisson, dans cet endroit sans lumière, mais certainement pas sans odeur? Dans ce lieu d'où l'on sort, mais pas vraiment de la même manière que l'on est entré. Cet estomac qui peut se mettre à tout moment en action et vous broyer comme une simple tartine. Ouh là là, ça fait peur! Quand nous laissons partir notre imagination, nous pouvons comprendre que bien des théologiens, commentateurs, lecteurs du livre de Jonas, puissent en faire une simple parabole. Une belle histoire, aussi bien pour les petits que pour les grands. Nous pourrions mettre en doute la véracité, ce qui a déjà été fait d'ailleurs. Mais il existe bien des poissons pouvant atteindre les 20 mètres de long qui pourraient englober un homme entier. Mais mes propos ne seront pas de prouver ou non que le livre de Jonas n'est pas une fable. Il est pour moi parole de Dieu. S'il en était autrement, je ne vois pas pourquoi il serait lu publiquement à la fin du Yom Kippour, ce jour du grand pardon, qui est la principale des solennités du calendrier juif. Le livre de Jonas tient une place exceptionnelle dans la liturgie juive. Et en plus, comment douter de Jésus, qui le cite comme exemple de miracle. Jonas, un des plus petits livres de l'Ancien Testament. Seuls les livres d'Abdias et d'Agée sont plus courts, et le rouleau de Nahum est équivalent. Mais quelle source d'enseignement, avec ses excès, ses extrêmes, ses questionnements, ses situations atypiques. Ce livre peut être parcouru par n'importe quel lectorat, quel que soit l'âge, l'intelligence, le passé religieux. Tous, nous pouvons y trouver quelque chose qui nous encourage, nous relève, nous fait réfléchir, tout simplement nous fait grandir. Mais assez parlé du support, abordons ce prophète peu banal. Comment Jonas s'est-il retrouvé dans cet endroit tout aussi improbable que celui d'un ventre de poisson, fût-il très grand? Pour ceux qui n'auraient pas relu le texte complet, je vous rappelle les 5 premiers versets. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 5. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il y trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui était sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Deux chemins sont devant Jonas. Celui que Dieu lui indique vers l'est, où se trouve Ninive, la grande ville sanguinaire, capitale de l'Empire assyrien, et, à plus ou moins égale distance dans l'autre sens, vers l'ouest, Tarsis, ville de commerce sur le bord de la mer, en Espagne. Mais je voudrais vous montrer une autre route, celle qui descend, un peu comme dans la parabole dite du bon samaritain, le chemin qui descend vers Jéricho, le lieu de perdition. Jonas va justement emprunter cette descente en 4 étapes. Il prend l'ascenseur au premier étage et descend au rez-de-chaussée. Je devrais dire presque au niveau de la mer. Notre récit ne rapporte que pour fuir loin de la face de l'Éternel, Jonas descend à Jaffa. En effet, selon le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, chapitre 14, verset 25, Jonas habite à Gath-Épher, qui se trouve à 5 kilomètres de Nazareth, et qui se situe à 300 mètres d'altitude. Jonas fait donc bien une descente géographique. Première étape. Continuons notre lecture. Il embarque dans le bateau. Le verbe hébreu utilisé pour embarquer est exactement le même que descendre. Jonas descend donc dans le bateau pour Tarsis. Je vous signale qu'au passage, qu'à l'époque, ces navires étaient très grands, qu'ils ne démarraient pas s'ils n'avaient pas suffisamment de passagers, et que le paiement se faisait arriver à destination et au débarquement. Jonas, nous dit le texte, paya le prix du transport. Il n'y avait apparemment que les mariniers. De plus, il paye d'avance, en quelque sorte. Il achète le voyage complet, qui lui coûte très cher. Il voulait être certain d'arriver à destination, loin de la face de l'Éternel. Il descend d'un étage, celui au ras de la mer. Deuxième étape. Jonas confiant que Dieu ne va pas le tuer pour sa fuite. Malgré la tempête, il va faire ce que je dirais une petite soquette, comme on dit à Liège. Il descend donc dans le fond du navire, et le texte nous dit qu'il s'endort profondément. Il est dans la cale du bateau qui se trouve sous le niveau de la mer. Troisième étape. Je vous signale que c'est lui qui a voulu être là. Peu importe l'ordre de l'Éternel, clair, net et précis. Va à Ninive la Grande et crie contre elle. Il faut avouer que la mission n'était pas banale. Envoyer un prophète israélite qui avait connu le grand Élie et était probablement contemporain d'Élisée, son successeur, dans une des pires villes qui soient de l'époque. Ce n'était pas très enviable. Il décide donc de fuir la face de l'Éternel. Il ne connaissait peut-être pas le psaume 139 qui nous dit, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Je suis davantage d'avis de dire qu'il le connaissait bien, parce qu'il sait que Dieu ne le lâchera pas. Dieu emploiera des moyens extrêmes peut-être, mais il le saisira. Rappelons-nous le chemin de Damas que suivait Saul, convaincu d'être dans la volonté de Dieu, mais combien criminel, et que l'Éternel arrêtera pour le transformer en apôtre Paul. Mais je vous ai parlé de quatre étapes de descente de Jonas. J'y arrive. Alors que la tempête fait rage, les mariniers s'interrogent sur la cause de leur malheur. Et le sort, ou, comme vous voulez, le doigt de Dieu désigne Jonas comme responsable de cette catastrophe. Comprenant que le Dieu des Hébreux, que Jonas craint, est très fâché, ils essaient de trouver une solution. Et c'est le prophète qui va leur donner la clé du salut. Chapitre 1, verset 12. « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » À la une, à la deux, hop, Jonas balancé par-dessus bord. Remarquez que Jonas ne fait pas grand-chose, mais il provoque tout. « Ouais, victoire, le calme est revenu !» Et les marins se convertissent, du moins, ils offrent un sacrifice à l'Éternel et font des vœux. Chapitre 1, verset 16. La rébellion de Jonas aura au moins servi à quelque chose, la conversion des mariniers. Par contre, Dieu fait beaucoup dans ce livre. Il envoie un poisson et hop, Jonas sauvé de la noyade. Enfin, presque sauvé. J'en arrive enfin à cette quatrième descente, qui est la plus profonde. C'est Jonas lui-même, dans sa prière que nous avons lue, qui nous la révèle. Chapitre 2, verset 7. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. » C'est lui qui parle, hein ?« Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Jusqu'au tréfonds, nous dit le texte hébreu, au-delà des fonds. Et les verrous de la terre se sont fermés. ici. » S'arrête le film. Il n'y a plus rien. Rien qu'un espace confiné, infect, gluant et nauséabond. Rien qu'un endroit sans lumière, sans bruit, sans air, sans voir, sans manger ni boire. Tiens, ça me fait penser à Saul, aveugle qui restait sans manger ni boire. Combien de temps ? 3 jours. Et que fait Saul pendant ce temps ? Il prie. Comment Jonas a-t-il tenu le coup dans le ventre du poisson, lui aussi ? 3 jours ? Vous me direz, ce n'est que 3 jours. Nous, ça fait 54 jours à la maison, dans notre canapé, avec notre TV, notre apéro, nos courses possibles, notre petite promenade, notre confort, quoi. Repensez à ce pauvre homme dans sa chambre d'hôtel au bout du monde, aveugle de son pays et sa famille, sourd quant à la langue du pays. C'est pas pareil. Savons-nous notre chance ou notre grâce ? Comment Jonas va-t-il tenir le coup ? Il fait la même chose que Saul. Il ne mange pas et ne boit pas parce qu'il n'en a ni l'occasion ni le choix. Alors, il prie. Il fait pour ma part une des plus belles prières de foi et de courage que la Bible nous rapporte. Une prière simple, mais ô combien profonde, tout aussi profonde que la position où il se trouve, dans les abysses, profondeur, sans fond de l'océan. Tout le livre de Jonas est écrit en prose ou en poésie hébraïque. Et le chapitre 2 est un passage poétique. Comment exprimer un poème quand on est au fond du trou, sinon qu'en prière ? Si vous remarquez bien, en français, les paroles de Jonas sont au passé, au présent et au futur. Futur ! Quel avenir avait-il ? Je verrai encore ton Saint-Temple. J'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Jonas, si rebelle soit-il, sait qu'il est dans la main de Dieu, en dépit d'être dans le ventre du poisson. Tout comme le psalmiste que nous a partagé Daniel dans l'introduction de ce culte, et comme bien d'autres personnages bibliques. Joseph exilé par ses frères, Jérémie au fond de sa citerne, Daniel dans la fosse aux lions. Sommes-nous conscients que nous sommes dans les mains du Créateur, en dépit de cette pandémie ? L'Éternel a précipité Jonas de 4 étages. Ben non, c'est de sa faute s'il est dans cet état. Comment commence le livre ? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Comment débute la Bible ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment est l'état de Jonas ? Déplorable par sa faute. Comment est l'état de la création ? Déplorable par la faute de l'homme. De combien d'étages l'homme est-il descendu depuis sa création ? Tel Jonas, ne le blâmons pas. De combien de marches sommes-nous retombés depuis notre conversion ? Combien de passages par le ventre du poisson me faudra-t-il pour prier en poésie, le cœur tranquille parce que ma foi ne chancelle pas ? Cet arrêt dû à la pandémie ne fait-il pas partie du plan de Dieu pour ma vie ? Ma vie de foi, ma vie de prière, ma vie chrétienne tout simplement ? La foi de Jonas est exemplaire, même si ses actes ne le sont pas. C'est ce qui fait la force de la Bible, c'est qu'elle montre les hommes tels qu'ils sont. Je disais donc que la foi de Jonas est exemplaire. Il sait qu'il va dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Il a peut-être de bonnes raisons, hein ? Pourquoi convertir les gens de Ninive qui sont tellement méchants ? De plus, ils ne sont pas de notre peuple. Et ils vont quand même, quelques années plus tard, attaquer le royaume d'Israël. Maintenant, si les païens se tournent vers Dieu, c'est que son peuple ne répond plus à sa grâce, peut-être. Ce qu'il décrit dans sa deuxième prière est d'autant plus surprenant. Malgré les preuves de l'estomac puant du poisson, Jonas a gardé son caractère rebelle, il râle devant Dieu. Chapitre 4, verset 2. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant en Tarsis. La conversion de Ninive met Jonas dans tous ses états. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité, nous dit le premier verset du même chapitre. Rappelons-nous, Dieu a changé d'avis sur la sentence parce que les Ninivites se sont repentis grâce à l'avertissement de Jonas. Mais dans cette deuxième prière en poésie hébraïque, il y a la vérité qui est le message central du livre. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Jonas savait. Il connaissait parfaitement le Dieu qu'il servait. C'est ce qui lui a permis de tenir le coup dans son passage à vide face à la mort de la digestion du poisson. Mettons ce « je savais » en relation avec la même expression dans le Nouveau Testament. Je vous propose de lire dans Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 26. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Vous avez sans doute reconnu une partie de la parabole dite des talents. Le serviteur qui avait reçu un talent va faire comme Jonas. Il va enterrer ce que Dieu lui a donné. Pourtant, il déclarera qu'il savait comment était son maître. Et nous, comment connaissons-nous notre maître? Quel chemin allons-nous prendre après le confinement? Allons-nous défier Dieu de n'avoir pas suivi nos idées ou allons-nous lui rapporter le talent que nous n'avons pas utilisé? Le livre de Jonas continue à nous montrer un serviteur rebelle qui va jusqu'à demander la mort. Je suis souvent attristé de voir que des enfants de Dieu, des serviteurs qui ont vécu des miracles, se détournent de leur engagement. Oh, que le Seigneur nous garde de nous éloigner de sa présence, que nous puissions suivre le chemin d'Emmaüs où Jésus fait route avec nous. Comme Saul, Jonas traversera la vallée de l'ombre de la mort, tout comme nous dans cette épreuve mondiale. Mais soyons confiants, si Dieu est au ciel et nous sur la terre, nous devons savoir qu'il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qu'il se repent du mal. Le livre de Jonas se referme comme il a commencé, avec la parole de Dieu, montrant sa compassion profonde pour l'être humain, quel qu'il soit. Amen. Épître aux Romains, chapitre 10, versets 13 et 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Jonas nous a montré un chemin descendant, mais aussi un Dieu unique qu'il est bon de connaître et de faire connaître. Que le « je savais » ne soit pas dit avec regret, mais avec espérance. Prions. Seigneur, c'est avec foi et espérance que nous voulons nous en remettre à toi pour la sortie du confinement. Nous te remettons aussi tous ceux qui souffrent de solitude, ceux qui sont dans les hôpitaux, aussi bien les malades que le personnel soignant. Donne à nos autorités les bonnes idées pour qu'elles prennent les bonnes décisions et que nous ayons les bonnes réactions. Qu'à toi revienne toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous rappelle notre rendez-vous de prière à la maison tous les mardis entre 19h et 19h30. Confinés, mais pas séparés. N'hésitez pas non plus à visiter le site des communautés d'Herstal-Sherat avec lequel nous sommes en synergie. Je vous donne rendez-vous aussi dimanche prochain, Dieu voulant, à la même heure. Que la grâce et la paix vous accompagnent sur le chemin de votre vie. Amen.